remercier tout le monde et me réjouir que nous ayons eu ces deux jours et demi de débat depuis mercredi soir. C'est dire, enfin, que, en tout cas, un des objectifs principaux de cet ouvrage, qui est de lancer des questions et de faire débattre, de fournir aussi de la documentation. Je pense qu'il a été déjà, on voit bien qu'il est atteint. Il y a un certain nombre de questions qui ont été débattues que je trouve tout à fait passionnantes, donc je crois que ça serait un peu bête de ma part de vouloir revenir dessus, parce que je ne reviendrai pas sur les propos de Saskia Sassen, et, ni sur la dernière déclaration d'Emmanuel Théré, très belle et qui est déjà conclusive. Je voudrais simplement vous proposer, mais c'est un vrai challenge, de retenir l'attention encore un quart d'heure, peut-être, j'essaierai de faire pas plus que ça, constatant d'abord que le savoir sur les camps, l'encampement, n'en est plus à ses débuts, et c'est ce qu'on vient de voir, et il existe maintenant depuis une quinzaine d'années, une quantité de recherches. Je crois qu'Alain y a fait mention. Il existe aujourd'hui une quantité de recherches. Je crois que dans le monde anglo-saxon, on aime bien faire créer des notions autour des thèmes. Il existe aujourd'hui le Camp Studies. Après le Urban Studies, il y a le Camp Studies. Voilà. Et donc, je crois que c'est intéressant de constater que ce Camp Studies est devenu, en une quinzaine d'années, un domaine de recherche très important. C'est dire que le phénomène d'actualité est important, le phénomène dans son historicité est très important, mais il est devenu un thème de recherche également très important. Ce que je voudrais faire, c'est juste prendre ce qu'il a disait, « We can learn from the camp », nous pouvons apprendre des camps. Alors, d'une manière très ambitieuse, on avait indiqué en conclusion ce que les camps nous disent de l'avenir du monde. Ce que je voudrais faire, peut-être plus modestement, mais d'une certaine façon, ça revient au même, ça serait proposer deux ou trois ou quatre questions de recherche qui pourraient être, à partir de ce qu'on a discuté là, qui pourraient être de questions de recherche qui relancent le thème d'une certaine façon, qui ouvrent aussi et qui continuent, puisque, comme je disais, on n'en est pas au début. Et donc... Et donc, on peut aller plus loin. La première question, et on l'a très peu abordée, sauf dans cette dernière table ronde, finalement, c'est la question du camp et du statut de l'étranger. Il me semble qu'on peut dire que le statut de l'étranger, en général, dans le monde, est en train de changer, mais que le camp joue un rôle particulier. Voilà quelques propositions. Les camps mettent en scène, ou plutôt en espace, la condition de l'étranger comme déraciné, dépaysé, délocalisé, dénationalisé, déshumanisé, éventuellement désidentifié, donc dans toutes ces négations, toutes ces pertes. L'immigré est d'abord un émigré, écrivait le sociologue algérien Abdelmalek Sayad, en évoquant un âge de l'immigration, celui des années 60-80 en France, où l'insertion économique et politique des travailleurs migrants dans les cadres nationaux était pourtant bien plus réelle qu'aujourd'hui. On pourrait presque parler d'un âge d'or de l'immigration. Le déplacé, lui, arrive dans le camp après un ensemble de pertes intégrales ou partielles de ses lieux, de ses biens, de ses liens, et établi dans le camp ou dans la zone ou dans le campement. Et là, on voit bien que... On peut discuter des termes, mais on a une réalité que je crois on a assez bien circonscrite, établie dans ces hors-lieux. Donc, le déplacé n'a encore à ce moment-là rien mis à la place de sa perte. Il reste déterminé par cette perte du départ et par l'interruption de sa mobilité dans le camp. Le camp n'est jamais un choix, je crois qu'il faut le redire. On a eu ces discussions depuis mercredi. Le camp n'est jamais un choix, mais au minimum le résultat d'une contrainte, vitale, survivre, se soigner, se cacher, ou bien le résultat d'une autre contrainte administrative, policière ou militaire. C'est sans doute ce qui fait l'unité de tous ces lieux où on ne choisit pas d'être, et qui sont l'expression d'un biopouvoir ou d'un géopouvoir, effectivement, comme pourraient dire les géographes, et Michel Lussault y a fait allusion. Le déplacé encampé devient pour les locaux ou les nationaux, les gens qui sont ici, un étranger. Mais alors, qu'est-ce qu'un étranger ? On a trois termes en anglais qui nous servent à réfléchir en français. Et on est content en français d'avoir un seul terme parce qu'on joue sur cette ambiguïté. Étranger d'abord au sens d'opposé au local connu et familier, ce que désigne le mot stranger en anglais. On pourrait dire une conception anthropologique de l'étranger. Emmanuel a écrit quelques textes magnifiques sur le besoin de toute société d'avoir affaire à un étranger pour se transformer, pour avancer. Étranger ensuite au sens d'opposé au national ou une condition juridique, si on veut, le foreigner. Et puis, le camp, pourrait-on dire, ajoute à ces deux définitions classiques de l'étranger une troisième, celle qu'avec Michel Foucault, on peut appeler l'enfermé dehors. On peut craindre aujourd'hui, en conséquence d'une certaine radicalisation de cette conception-là de l'étranger, que se développe par la seule logique des effets de l'encampement et de l'invisibilité qui lui est associée, cette forme-là de l'étranger, un étranger radical, un étranger absolu. On se retrouverait ainsi dans une conception a priori, non culturelle, mais radicale, de l'autre, non pas différent culturellement, mais absent, parce que tenu à l'écart du monde où les humains normaux circulent, travaillent, habitent. La brutalité du champ discursif de la race, et je reprends des mots d'Achille Mbembe, de mercredi, mais de ses ouvrages aussi, la brutalité aujourd'hui du champ discursif de la race qui se répand depuis une vingtaine d'années, notamment dans les pays occidentaux riches, à l'inverse d'une tradition civique, égalitaire et humaniste dont ces pays se vantent encore, par ailleurs, fait écho à cette désidentification ou déshumanisation de l'étranger encampé, associé à l'anormalité, à quelque chose qui est anormal, une humanité anormale. Et l'encampement signifie donc, d'une certaine façon, sa disparition sociale. On n'est pas tout à fait, je crois, dans la figure du camp comme mort biologique, associé à la mort, comme a pu le dire peut-être trop systématiquement Agamben, mais on est certainement dans cette image de la disparition sociale dans le camp et par le camp, à nouveau vers Hannah Arendt et vers une idée de Hannah Arendt, c'est-à-dire qu'on commence d'abord par la mort sociale avant que la mort physique éventuellement ait lieu. On disparaît d'abord du champ social et c'est certainement la fonction du camp. Et donc dans ce cadre-là, on peut dire que c'est le camp qui fait l'étranger, ou qui va faire l'étranger, et que cet étranger-là nous restera inaccessible aussi longtemps qu'il restera encampé. Maintenu dans l'inachèvement d'un parcours de mobilité, il n'est ni immigré ni émigré, mais suspendu en migration. Le camp est tout à l'image de cette frustration, c'est une expérience du monde vécue dans un maintien à la marge des États, dans un maintien dans l'interstice spatial, l'intervalle juridique et politique. Verra-t-on disparaître la figure de l'étranger à travers donc la désidentification et la disparition des migrants dans les camps ? Le deuxième enseignement, il me semble, du camp, c'est le camp comme espace de frontière. Et là, nous avons plusieurs apprentissages. La frontière, c'est dedans et dehors, ça a été évoqué hier à quelques reprises. On a ce dehors, c'est-à-dire ce camp comme frontière qui est l'enfermement dehors, défini du point de vue de l'État, de celui qui met à l'écart, qui met dans un banc. Et puis on a la réalité, et là je trouve que c'était aussi l'objectif des travaux, et c'était évidemment l'objectif des travaux qu'on a réunis dans cet ouvrage, la réalité des camps qui se développent dans un lieu qui est la frontière et qui lui-même devient, bon, ce que j'ai appelé, malgré tout, et sans y mettre aucun embellissement, un ordinaire cosmopolite. C'est-à-dire des gens qui viennent d'un peu tout un tas de pays, tout un tas de villages, qui rencontrent d'autres gens, qui apprennent de nouvelles langues, qui apprennent de nouvelles manières de vivre. Et donc, d'une certaine façon, on se trouve avec cette figure que l'anthropologie encore à comprendre, qui est celle d'avoir des étrangers radicaux, des étrangers absolus, ceux qu'on ne voit plus, mais qui eux-mêmes sont en train de se transformer et de devenir d'autres personnes que celles qu'on croit qu'ils sont quand on les maintient dans ces lieux-là. La marge de l'État, c'est une question, la marge fixée dans le camp comme marge de l'État, c'est une question qui détermine aussi ce rôle de frontière que joue le camp. Ça a été évoqué quelques fois, c'est-à-dire on peut tracer, Kamel Doray en a parlé à propos de la Jordanie, on peut tracer dans un pays une sorte de frontière. Par exemple, pour les Syriens en Jordanie aujourd'hui, cette frontière, c'est le réseau de tous les camps dans le pays. Et finalement, on peut dire, et c'était l'objectif que nous avions eu quand nous avons voulu faire une carte, alors qu'au début, elle n'était pas facile à faire, et finalement, elle avance, et nous en avons une deuxième version qui progresse sur la première, et j'espère que nous en aurons d'autres. Il s'agit de dessiner ce réseau de lieux qui sont des réseaux qui font frontière, quoi, d'une certaine façon, qui font frontière. Ce qui, bien évidemment, pose le problème de l'existence sociale, culturelle, j'en ai parlé, mais aussi politique, d'un lieu qui est entre les États, qui est, et j'ai voulu reprendre abondamment, même dans ce que j'ai écrit aussi sur ce thème, l'idée de Saskia de dénationalisation d'une partie des compétences nationales, et donc ces espaces qu'ils relèvent de l'humanitaire, du sécuritaire ou d'une certaine administration sont délégués, une souveraineté partielle déléguée dans des espaces dont les camps sont un peu le symbole. Et on peut imaginer que dans l'état actuel des choses, le développement de la mondialisation fera qu'inévitablement on a un développement de la forme camp sous différentes réalisations. Parmi ces différentes réalisations, je voudrais insister pour suggérer aussi un nouveau champ de recherche qui est le camp des travailleurs ou les camps de travailleurs, puisqu'on ne l'a pas mis à part le texte de Tristan Brûlé et celui de Olivier Clochard, on n'a fait que commencer à découvrir ce terrain-là. En réalité, c'est un terrain qui est considérable, et ce qui nous a paru particulièrement intéressant en faisant la carte, c'est que si nous pouvons voir dans les pays du Nord des camps d'étrangers, des centres de rétention, dans les pays du Sud des camps de réfugiés et de déplacés internes, entre les frontières, entre les deux, les frontières bloquées et les campements de migrants à la frontière, Maroc, Grèce, États-Unis, Mexique, etc. Il y a un autre élément qui est apparu et qui est un vrai horizon de recherche, c'est la disposition géographique, mais Saskia pourrait nous aider à développer ce thème-là, la répartition géographique des camps de travailleurs qui, en gros, apparaissent dans ce qu'on appelle les pays émergents, principalement, Brésil et peut-être plus largement en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Chine, évidemment Europe du Sud avec l'Italie et l'Espagne et une partie des États-Unis. Dans tous ces secteurs-là, ce sont les secteurs du travail agricole, du travail non spécialisé, un peu comme on avait pu voir, et il y a une continuité de ce point de vue-là, des camps de déplacés libériens qui régulièrement voyaient arriver les camions de Firestone qui venaient les chercher pour aller travailler pendant 15 jours au sarclage, c'est-à-dire le travail le moins qualifié dans les plantations de DVA, et les ramener ensuite dans les camps de déplacés. Le thème du travail qui est un des éléments qui peut renforcer les fonctions, qui peut ajouter encore des fonctions au camp et donc qui peut faire développer encore ce paysage de camp, me semble être un thème de recherche, un terrain de recherche particulièrement important. Une troisième piste qui est On l'a beaucoup évoqué aussi, le camp comme ville, ou le camp ville, ou le camp et l'occupation. Je simplement pour l'aborder, revenir au terrain, comme nous dit Saskia, il faut, quand on n'est pas sûr de comprendre tout ce qui est en train de se passer, quand il faut encore mener des recherches, il faut peut-être revenir davantage à l'enquête. Quand on se demande ce que font devenir, et c'est beaucoup de questions, on se demande ce que vont devenir des camps de réfugiés, ce que vont devenir des camps de déplacés. On dit, il y en a qui ferment, il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont détruits, etc. J'essayais de systématiser ça. On a trois voies possibles. On a la disparition, ça a été abordé dans les destructions des campements de migrants à Patras, en Grèce, ou à Calais, en France, ou d'autres endroits en France avec les campements de Rome, ou les destructions de campements dans la jungle de Belyounech au Maroc. La disparition, donc, ou aussi la disparition, mais beaucoup plus difficile, dans les camps de réfugiés anciens. Parce que les camps de réfugiés anciens, la disparition pure et simple est toujours un problème. Et on le voit dans le camp de Maeba en Zambie, un camp de réfugiés ouvert en 1971 et qui devait se fermer sans y parvenir depuis 2002. L'autre voie après la disparition, ce serait la transformation progressive. J'ai bien entendu ce que disait Julien Brachet. Je ne sais pas ce qu'il faut qu'il existe. Les chercheurs ont pour principe de suspendre tout jugement, en tout cas quand ils font leurs recherches. Et donc je constate simplement qu'il y a, on l'a vu avec les cas des camps déplacés de Khartoum, par exemple, mais on le voit avec les camps de réfugiés palestiniens dans l'ensemble, il y a une transformation progressive sur la longue durée, ou maintenant sur la très longue durée, qui peut aller jusqu'à une certaine reconnaissance ou jusqu'à une certaine demande de reconnaissance, et jusqu'à un « to make the city », un faire ville qui représente la mise en œuvre du droit à la ville, et non pas l'attente que ce droit à la ville existera un jour, mais le mettre en œuvre en transformant d'une certaine façon le camp en un campement, ou en le faisant ressembler à un campement d'occupation, c'est-à-dire occuper un lieu et y rester. C'est un peu ce qui se passe avec les camps de réfugiés dont les occupants ne veulent pas partir, et c'est évidemment ce qui se passe avec les camps de réfugiés palestiniens depuis un certain nombre d'années, ce qui met en crise aussi la politique palestinienne, qui ne peut plus se contenter de la revendication du droit au retour comme un droit pour le futur, mais pour qui le droit est celui aussi du droit à la ville, d'une certaine façon, qui est le droit d'être sur place et d'avoir des droits citoyens sur place. Il me semble que cette forme-là est un paradigme qui vaut pour largement le monde des réfugiés et des déplacés dans les camps, qui restent dans les camps, même si, évidemment, tous ceux qui sont là ne l'ont pas choisi, et c'est toujours important de le dire. Donc, au final, oui, la troisième modalité, évidemment, c'est l'attente. Alors, on me dirait, c'est pas une modalité, mais pourtant, c'en est bien une. C'est l'attente, c'est attendre que des compromis se fassent pour qu'un lieu puisse rester, que le camp puisse rester dans son coin, ne pas se transformer et continuer de servir de sas. Il me semble que, là aussi, sans faire de jugement, mais avec une certaine inquiétude quand même, il me semble que cette fonction-là risque de rester et de se développer, maintenir dans l'attente une forme d'enfermement qui pourrait bien vouloir dire, à l'image des centres de rétention, que ces sas, que ces lieux où on est toujours dans l'attente, eux sont fixes, et donc ils servent aussi de lieux de triage, de screening. Le screening est un terme qui est très utilisé dans tout ce monde-là, un lieu de triage qui implique un certain turnover. Voilà les quelques mots que je voulais dire, juste pour proposer de nouveaux terrains de recherche, éventuellement vous proposer d'organiser un colloque comme ça dans 2 ans, avec encore beaucoup de matière à réfléchir, d'autres ouvrages. Je ne voudrais pas terminer sans remercier mes collègues qui ont organisé ce colloque. Fiona Meadows, grâce à qui ce colloque est devenu un colloque commun de l'EHESS et de la Cité de l'Architecture, avec le soutien de l'IRD, de l'ANR bien sûr, et de la ville de Paris, ce qui est très important pour nous, avec le petit comité d'organisation que nous avons formé avec Hélène Thiollet, qui est aussi responsable avec Catherine de Venden du projet mobilité globalisation de l'ANR, qui nous a permis d'intégrer notre projet, et avec Clara Lecadet, qui a participé également à ce comité d'organisation, tout comme elle a largement participé à la préparation de l'ouvrage, en apportant une collaboration importante que tous les auteurs qui sont là connaissent et avec qui elle a été en dialogue. Bien évidemment, je remercie à tous les auteurs de l'ouvrage, ou pratiquement tous, je crois qu'il en manque un ou deux pour des raisons d'indisponibilité d'enseignement, d'être là. Donc je vous remercie vivement d'être tous venus et d'avoir bien voulu jouer le jeu du débat avec le public qui a été nombreux pendant ces 3 jours. Et puis pour finir, je voudrais remercier Émilie Traube. Quand on dit qu'un colloque n'aurait pas pu s'organiser sans une personne, là c'est très clair, c'est très précis. J'en suis sûr, je peux affirmer, ce colloque n'aurait pas pu se réaliser si, depuis le mois de mai, Émilie Traube, dans le cadre d'un stage, elle est étudiante en master à l'IEDES, à Paris 1, et dans le cadre d'un stage depuis pratiquement le mois de mai, a pratiquement tout organisé d'une manière splendide. Donc merci beaucoup, et merci à vous.